Bonjour et bienvenue dans Certains Les Machos, l'émission qui met en orbite les films à la sortie. Salut Thierry.
Salut Thomas.
Aujourd'hui, on va remonter le temps avec quatre films merveilleux, Ad Astra,
Lucky Day,
3 jours une vie,
Portrait de la jeune fille en feu.
Oui, une très belle semaine de sortie avec des films plutôt intello, qui veulent raconter quelque chose, qui sont assez exigeants dans ce qu'ils veulent raconter. Et encore, on a déjà parlé du Woody Allen la semaine dernière, que vous pouvez rattraper dans l'épisode précédent. Ça nous fait 4 films relativement longs, donc on commence tout de suite, Thierry.
Moi, c'est une semaine combo, parce que c'est une semaine où je connais le travail des 4 réalisateurs.
Les films sont assez longs, alors on va y aller tout de suite.
On y va.
Major, we have some highly classified information.
What can you tell us about the Lima Project?
Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission.
And the commander was?
He was my father, sir.
This might come as quite a shock to you. Your father was experimenting with a highly classified material that could threaten our entire solar system. All life would be destroyed. We're counting on you to find out what's happening out there.
I worry about you. I love you.
Please begin your psychological evaluation. As best you can, please describe your current mental and emotional state.
I'm feeling good, ready to do my job to the best of my abilities.
Brad Pitt dans l'espace. Moi, j'aurais pu l'appeler Astronomic Now.
J'allais y venir exactement aussi. Astronomic Now, c'est un bon terme parce que c'est quand même l'histoire d'un gars qui va rechercher son père suite à une mission qui peut avoir capoté, qui est laissé à l'abandon quelque part. Ça va être une avancée lente avec de la réflexion pour trouver quelqu'un qu'on ne verra qu'à peine, mais qui est tout le temps là pourtant. Colonel Kurtz, quoi.
Avec des tableaux, une idée de la folie aussi, parce qu'on a un contrôle psychologique tout le temps, ce qui est déjà une forme de folie en soi, et une épreuve psychique, la solitude dans l'espace qui rend dingue, hein, au passage. Non, alors ce n'est pas Apocalypse Now, ce n'est pas 2001 l'Odyssée de l'espace non plus, même s'il y a de grosses parentés énormissimes, c'est Ad Astra de James Gray, avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, qui joue donc le père de Brad Pitt. On a aussi Ruth Negga, Liv Tyler, Donald Sutherland qui sont là dans le casting. Un beau casting, hein, n'est-ce pas, pour ce film. Ton avis, à chaud, en sortant de ce film d'espace court, hein, seulement 2 heures pour un film d'espace.
Que James Gray a l'intelligence que Michael Bay n'a pas. Donc même quand il met Liv Tyler dans un film dans l'espace, il ne demande pas à son papa de chanter tout le temps.
Bon, alors ton avis à chaud sur ce film court de 2 heures?
Ça va être compliqué d'en parler, il va falloir qu'on se mette des éléments en tête. Moi, c'est vraiment mon rapport au film, on va dire, de quête initiatique dans l'espace, qui est un genre assez particulier, qui va respecter des codes assez précis et que James Gray a tout à fait respecté et même sublimé. C'est un rythme très, très, très particulier. Donc moi, j'ai souvent été assez absent du film. Malgré tout, j'en ai vu pas mal, et enfin, j'en ai analysé pas mal, j'ai pu quand même regarder pas mal de choses. Mais moi, c'est le genre de film que je dois toujours revoir. J'ai toujours eu le même souci avec Interstellar, j'ai eu le même souci avec Solaris, j'ai eu le même souci avec Sunshine, j'ai eu le souci... Toujours ce genre de film, je dois faire une seconde vision. Et c'est aussi le cas des derniers James Gray, puisque je trouve que ça a le même genre de rythme que The Lost City of Z, qui est exactement basé sur les mêmes thèmes. Donc on pourra plutôt parler des thèmes, mais là, le ressenti, je me dis, j'ai été un peu perdu, j'ai été un peu confus, j'ai l'impression d'avoir assisté à quelque chose de grandiose sans forcément m'être impliqué dedans, je dois le revoir.
Henri ? Oui, assez particulier, c'est vrai que moi aussi j'ai dû lutter un peu, mais j'ai pas décroché pour autant. Et j'ai pas regardé ma montre une seule fois, j'étais captivé par ce qui se passait à l'écran, c'est très 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 beau. On a aussi un magnifique travail sur le son, même s'il y a des moments où on entend des trucs qu'on n'est pas censé entendre, mais bon, après il faut retransmettre le son de l'espace au cinéma, ce qui n'est pas toujours évident. C'est une épopée, c'est ça, c'est un voyage, c'est un croisement un peu entre Apocalypse Now et 2001 l'Odyssée de l'espace. Dans le cheminement, on a une vision du monde qui est différente aussi. On a un passage sur la Lune aussi avant de partir très loin au fin fond du système solaire. Et autant dans 2001 on voyait un monde en paix, autant là, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ça sera le Far West sur la Lune et il y aura des zones troubles, il y aura des pirates et ça va péter, quoi.
Le scénario,
à peu près, on a McBride, donc Brad Pitt, je sais plus son prénom.
Roy
McBride. Ça fait vraiment nom d'astronaute.
Ça fait nom de mec qui chope des taureaux au lasso au fin fond du Texas.
Je suis Roy McBride. Il est agent d'entretien sur une antenne intersidérale, hein, surtout sur une antenne à haute altitude. Et il y a des événements en chaîne, il y a des surtensions qui arrivent dues à cause de réactions en chaîne d'antimatière. Et en fait, ça serait causé par une expérience au fin fond du système solaire sur un vaisseau, le projet Lima, qui serait propulsé par antimatière. Et en fait, ça déconnerait de là-bas. Et le projet Lima est mené par Tommy Lee Jones, donc le docteur McBride, qui est le père de Brad Pitt. La Space Wharf Company qui vient chercher Brad Pitt, qui fait « Au fait, tu veux pas venir, s'il te plaît, pour régler le problème, parce qu'on a besoin de toi. » On va te la mettre à l'envers, bien sûr, mais bon, c'est parce qu'on est une super société, c'est notre boulot. Et donc, il part sur Mars pour envoyer un message par onde laser, parce que c'est plus mieux. Et donc, ça permet aussi de traverser plusieurs tableaux et de montrer un peu l'univers de science-fiction et de faire une épopée. Et on a une épopée à travers l'espace, une quête initiatique d'un fils vers son père.
Son père, c'est clairement le terme qu'il faut utiliser, puisque là, on touche à toutes les thématiques de James Gray. Dans chaque film de James Gray, ça parle du rapport au père, du rapport au détachement aussi de l'héritage parental, et de l'amour perdu. Bon, là, l'amour perdu, c'est quand même là, hein, mais c'est un peu plus annexe, même si tu sens que ça pèse sur le personnage. Enfin, c'est pas montré énormément à l'écran, par contre, c'est montré dans toutes les émissions de Roy, en fait. Cette espèce de mélancolie, voilà, suite à l'abandon, qu'il aimerait retrouver sans forcément s'y intéresser, parce qu'il y a aussi le grand tout et la grande quête à régler. On s'était dit en fin de séance que justement c'était intéressant d'avoir mis Brad Pitt dans ce rôle-là, parce que Brad Pitt avait déjà joué par exemple dans Tree of Life des rapports de père conflictuels. Alors j'ai l'impression que même là, il y a quand même des gens qui ont été choisis aussi pas mal pour ça. Parce que par exemple, Tommy Lee Jones, il avait réalisé deux films, deux westerns, qui parlait aussi, alors pas forcément de la parenté, mais de la transmission du savoir, de la transmission des règles, de la transmission de plein de choses. Donc du coup, il y a quand même un rapport, voilà, père à enfant. Il y a Donald Sutherland, qui a été, bon, qui a un petit rôle, mais voilà, on connaît tous son fiston et les gros problèmes qu'il a pu lui causer, enfin, qu'il a sûrement aussi causé lui-même, hein, parce que quand t'es un papa star et que t'es un gamin qui emploie à la colère, c'est pas forcément dû à quelqu'un d'autre que toi. Mais voilà, donc du coup j'ai l'impression qu'il a pris des gens impliqués aussi pour parler de son sujet, du coup ce qui fait qu'il n'a pas eu besoin de demander beaucoup de choses, plus des échanges de regards, parce que c'est un film qui est très silencieux, c'est un film qui parle pas énormément.
Déjà rien que la scène de départ, alors plus tard dans la mission on va vous parler de Lucky Day où il y a un rapport dans un couple, là le rapport entre Brad Pitt et sa femme Liv Tyler, enfin son ex-femme du coup, en une seule scène silencieuse on comprend tout, et c'est beau, enfin ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir. C'est au tout début du film, quoi. On la voit, elle traverse la pièce, elle jette un dernier regard à Brad Pitt qui en a l'air d'avoir rien à foutre. Elle pose les clés sur le bar et elle se casse. Elle ferme et elle claque la porte derrière elle. Ça y est, c'est fini. Enfin, je veux dire, tout est dit, quoi. C'est beau.
Bah, surtout que oui, parce que de toute façon, c'est quelque chose, vu qu'étant donné qu'il a toujours abordé ce sujet dans ses films, forcément, il sait le mettre en scène, quoi. Et je pense qu'il a compris au fur et à mesure, après avoir aussi abordé ce thème des fois de plein pied. On pense à Two Lovers, on pense même à La Nuit où l'appartient, où c'est beaucoup plus prononcé. Donc forcément, à partir du moment où il sait le faire de manière très détaillée, il sait aussi s'en détacher quand c'est pas son sujet principal, mais bien montrer que c'est là, que c'est important. Et ça, c'est très très fort. Après, oui, voilà, bah, de toute façon, même le film en soi va surtout toucher à, voilà, accepter l'intégralité de l'héritage des parents, donc refaire exactement tout leur cheminement pour ensuite aller plus loin une fois qu'on a acquis toutes les connaissances, en fait. Et c'est un petit peu ça, ça parle même de l'humanité au final, ça parle de l'humanité où toute la première phase d'une vie, c'est l'apprentissage de toutes les connaissances, enfin pratiques en tout cas, et après techniques d'un domaine précis, pour ensuite apprendre à faire évoluer ce domaine en question ou faire évoluer la conscience générale, quoi. Donc c'est pas étonnant que ce soit dans un film comme ça, puisque de toute façon, généralement, à part quand c'est du space opéra ou de l'action, dès l'instant qu'un film spatial, enfin qu'un film parle justement de la découverte spatiale et de l'exploration spatiale, c'est un film sur l'agrandissement de l'esprit humain, avant tout.
Oui, d'autant qu'il y a aussi cette notion de se concentrer sur l'essentiel, sur la chose la plus importante, qui va évoluer en même temps que le personnage. Science-fiction dit aussi réalisme. Est-ce qu'on est face à une œuvre réaliste, entre guillemets, pour peu qu'on puisse dire réaliste pour ce genre de choses?
Je trouve qu'il était très malin sur le travail dans le son là-dessus, parce que par exemple, on entend quelques sons spatiaux, sauf que ces sons, on les entend en résonance. c'est pas un son qu'il pourrait entendre si jamais il enlevait son casque, c'est des sons qu'on entend parce qu'il est en train de toucher une structure, quelque chose la touche, il va entendre la résonance de la structure plus qu'autre chose. Donc en soit là-dessus, c'est nickel. Et évidemment, bah, comme dans le travail qui avait été fait dans Gravity, les seules voix qu'on peut entendre sont quand il se passe, quand il se parle à travers des micros. Donc il n'y a pas de son extérieur. La musique est très discrète. Il y en a un.
Mais d'ailleurs, il y a un gros travail là-dessus sur cette résonance dans la poursuite en bagnole qu'on voit dans la bande-annonce. C'est là qu'on remarque le plus ce travail-là.
Mais au début, moi, je m'étais posé la première question, c'est quand on le voit justement sur la plateforme où tout à coup il y a des petites explosions, alors qu'ils sont plus des implosions. Ça, c'est faisable. L'explosion, normalement, c'est pas très possible dans l'espace. Et puis là, je me rends compte qu'ils sont pas vraiment dans l'espace. Donc ça va. Mais au début, je me dis, ah, on commence là-dessus. C'est le réalisme déjà, tu te le fous là. Donc en soi, bon, ça se passe dans un futur proche, avec une technologie qui a évolué mais qui ressemble à celle qu'on avait là. C'est juste qu'en gros, les vaisseaux peuvent aller plus loin. Pas de grande différence avec ce qu'on peut faire à l'heure actuelle, si ce n'est une technologie plus avancée, mais qui ne tente pas d'inventer des choses beaucoup trop, irréalistes.
Il y a quand même moteur antimatière.
Non, il y a des trucs. Non, il y a des trucs évidemment, mais c'est quelque chose qui sont pas forcément en projet actuel, mais qui peuvent être dans une suite logique. Donc oui, moi je dirais que là-dessus, c'est un film réaliste. Après, c'est un film qui se passe dans le futur, donc du coup, tu peux y mettre le réalisme que tu veux, quoi. Mais au moins, il en fait pas 3 tonnes. Et vu que de toute façon, c'est pas vraiment son sujet, il a pas besoin de trop pousser là-dessus, quoi.
Moi, je mettrais quand même des réserves sur le décollage depuis Mars, quand même. Bon, je sais pas quelles sont les conditions de décollage sur Mars, mais quelque chose me dit que t'es pas aussi à l'aise pendant la phase où tu décroches de la Terre, quoi, finalement. Enfin, tu quittes le sol. Faudrait demander à des pros, faudrait demander à des spécialistes. Voilà, si vous êtes expert, chers auditeurs, en astrophysique, en décollage, en physique des fusées. Bien, Ad Astra nous amène dans les étoiles. Je le fais chaque fois qu'on fait un film spatial, il va falloir un peu renouveler les vannes, hein, renouveler les formules. Voilà. On a été beaucoup moins chanceux avec le Kid.
Allez, c'est parti.
Prisoner 1, 2, 0, 18, 14, roll it up.
Papa, papa! Oh, Boopy,
look how big you are!
Hey, welcome back.
Lolita, so good to see you.
May I introduce my parole officer?
I can't believe they let you walk.
Flight 6 now arriving.
Purpose for coming to the United States?
Business. Pleasure.
Well, which one is it?
Both.
What are you doing?
Luke Chatillon? Oh, shit.
On n'a pas eu de bol, on est tombé sur Lucky Day. Lucky Day, qui est censé vouloir dire jour de chance, c'est ça ? Mais pour qui ? Pas pour le spectateur en tout cas.
Non, non, quelle horreur.
Lucky Day de Roger Avary, qui avait réalisé Killing Zoe.
Et les lois de l'attraction aussi. Il est connu pour ces deux-là surtout.
Qui a participé à l'écriture de pas mal de scénarios, notamment des scénars de Tarantino. Et ainsi que il a bossé sur le scénar de Silent Hill et la légende de Beowulf, des chefs-d'œuvre, hein, n'est-ce pas? Un film avec Nina Dobrio, Luke Brassey, Crispin Glover, le psychopathe de Charlie's Angels ou le père de McFly. Ah, voilà. Et on a aussi Nadia Farès, Omer Sisley, Marc Dacascos. En fait, c'est un festival de second couteau. De troisième couteau, fait de fond de tiroir.
Faut pas se mentir, Killing Zoe c'était pas bien. Les lois d'attraction c'est pas bien. Roger Avary c'est pas un bon réal. Hein. Roger Avary c'est une espèce de second couteau qui sert à combler les trous, qui se retrouve là un peu par hasard, et que j'ai aucune honte d'insulter en fait, vu le résultat qu'on vient de voir là. Il se prend, oui, il a coécrit des scénarios avec Tarantino, et il se prend.
Il a participé sur certains, il n'est pas crédité, mais il a aidé. Il a écrit 2-3 trucs dans Pulp Fiction, visiblement, et dans Crime.
Il devait avoir les idées de merde qu'ils ont virées, c'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas co-crédité, parce que franchement, le mec se prend pour Tarantino, hein. Clairement, c'est flagrant. Il essaie de faire des plans à la Tarantino, il essaie de faire des dialogues à la Tarantino, mais qui sont, mais naze. La scène du bar où les mecs vont se monter le chou peu à peu avant que ça parte en bain de sang. Et là, c'est juste quoi? C'est prendre deux gars au hasard et les faire « Un, vous avez des bonnes gueules de PD !» Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Moi, je dis que toi, tu prends des bites et que toi, tu les reçois. Ah, les bonnes gueules de PD. Alors, au bout d'un moment, enfin, C'est hyper mal écrit.
C'est mal joué.
C'est très très mal joué. Moi, je suis venu pour voir Crispin Glover parce que j'adore ce mec et parce que ça me fait toujours marrer de le voir cabotiner à souhait. Parce que ce mec a clairement pas une carrière à la hauteur de ce qu'il peut faire et il adore peut-être aussi faire des séries Z. Là-dessus, t'es pas déçu, hein? Et en le faisant américain qui se prend pour un français et qui du coup parle en anglais avec un faux accent franco-allemand dégueulasse, c'est marrant et à la limite au moins si ça fait longtemps que t'as pas vu la gueule de Crispin Glover, là tu le vois partout tout le temps en gros plan.
Ouais, non mais il cabotine, c'est pas possible. Et d'ailleurs c'est les seuls moments à peu près intéressants du film où on respire un peu parce que le héros est plat et chiant et vide et inintéressant au possible et il faut attendre une heure de film pour que le tueur rencontre un membre de la famille du héros, quoi. Ben, je veux dire, c'est un plan de vengeance qui prend son temps. Sur un film d'une heure et demie qui est une heure de mise en place, c'est très 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 long, quoi.
Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai trouvé des techniques de cinéma que j'appellerais arriérées. Et même encore, je suis même pas certain que dans le cinéma décomplexé où on se permettait de dire n'importe quoi, je suis même pas certain que dans les valseuses de Blier, j'ai vu autant de misogynie que là. J'ai trouvé le film d'une misogynie mais affreuse.
Mal placé, mal foutu. On a un patron de galerie qui est le patron de, enfin, le galeriste de la femme du héros qui est artiste. Hein, et donc il lui fait du harcèlement, il est amoureux et du coup il est ridicule, mais il fait ah, je suis le méchant et si tu couches pas avec moi, eh bien je te poursuivrai en justice parce que tu me dois du pognon et je suis très très méchant.
Je pense pas à ça, moi. Quand je te parle de misogynie, je parle pas du tout de ça. Il y a une autre scène qui là par contre me dérange parce qu'en fait, à la limite, quand on te montre des personnages.
Et plus la femme de Thomas Sisley.
C'est ça. Quand on te montre des personnages masculins en fait qui soient ultra nauséabonds, c'est pas grave. Tu peux condamner les personnages masculins. Tu peux te dire c'est les personnages masculins. L'important c'est de montrer comment on représente les femmes. Là, à la limite, même si elle est un peu coconne d'aller s'enfermer dans son bureau alors qu'elle sait clairement que le mec va lui faire du harcèlement, elle lui dit non, elle lui dit merde, elle le frappe quand il faut. Là-dessus, le personnage est écrit comme le cul, mais au moins. Le chemin est accompli. Mais il y a la scène du bar où t'as donc le psychopathe qui débarque et qui dit à Thomas Sisley, là, enfin, putain, il y a Thomas Sisley dans ce film, mais quelle horreur, mais putain, mais ça se trouve, tous ces dialogues ont été pompés, je ne sais où. Le mec, il lui dit, je veux tes armes, en gros, il lui fait une réplique à la Terminator, genre, je veux tes lunettes, ton flingue et ta moto, et je veux aussi ta gonzesse, parce qu'elle me plaît et j'ai envie de me la tirer maintenant. Et le gars est là en mode, oh là là, tu as tellement de charisme que je dois accepter, machin. Donc en fait c'est un viol, hein, ce à quoi on est censé assister, sauf que du coup, la nana, on voit jamais son avis. La nana, elle sert juste à faire « C'est qui celui-là ?» Et ensuite, elle sert à hurler dans les chiottes « Ah oui, vas-y, prends-moi, fous-moi ta grosse bite, ah là 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 !» Avec des... voilà. Donc en fait, voilà, on nous montre un truc où de toute façon, les nanas n'ont pas d'âme, puisque de toute manière, à partir du moment où ton copain te dit « Tiens, ça c'est un monsieur, il te plaît pas, je m'en fous, il a décidé qu'il allait te baiser, t'as intérêt à prendre ton pied. » Et elle prend son pied. Voilà, donc la représentation des femmes, elle est là. Ce film est misogyne. Roger Avary est misogyne, je le dis. Je suis hyper énervé.
C'était le moindre problème de ce film, franchement.
Oui, non, mais
le film est tellement nul sur tous les points que la misogynie, ça passe tellement loin après.
J'en ai rien à foutre qu'un film soit naze à souhait. Tant qu'au moins, il n'y a pas un problème d'éthique à ce point, quoi. Oh. Ah non, là, il y a un problème d'éthique. Non. Ce qu'il dit, c'est un AV. C'est un AV parmi des milliers d'autres. Mais là, c'est un AV malsain qui te balance des messages. Les gens se marraient pendant cette scène, hein.
On sait jamais si c'est vraiment du premier degré ou je pense qu'il se prend beaucoup au premier degré. Les discussions sont tellement sérieuses, c'est pas possible. Enfin, en plus, il te cale du français partout. Il fait parler ses personnages en français. Donc du coup, déjà qu'ils sont pas très bons acteurs, en plus, ils parlent en français qui est pas leur langue natale. C'est encore plus mauvais. C'est une torture. Et à un moment, je me suis dit, bon, allez, c'est un nanar. Tu vois ça un soir avec des potes en buvant des bières. Tu fais un jeu à boire ou... Mais en fait, le film est tellement naze que même avec des potes, tu te fais chier, tu peux pas arriver au bout du film, quoi. Et mais c'est une catastrophe. C'est vraiment à fuir absolument. Je comprends pas qu'il soit pas sorti direct en VOD. Je comprends pas qu'il soit sorti en salle.
Roger Avary est un réal de merde, tout le monde le sait. Pourquoi tout le monde continue à lui filer des projets et pourquoi tout le monde le laisse bosser? Voilà, c'est tout. Oubliez ce mec, quoi. Foutez-le au fin fond des limbes et mettez-le à la retraite, quoi. Il sert à rien.
Je serais pas aussi violent, mais ouais, le direct fait, je comprends pas que ça soit arrivé en salle, quoi.
C'est arrivé en salle parce qu'il y avait un trou dans le planning, j'en sais rien. Ils ont réussi à se démerder, ils ont eu un distributeur qui s'est dit tiens, ça va ressembler à Tarantino, le public est suffisamment con, s'il voit un truc qui ressemble, il va y aller. Ou alors, parce qu'il y a eu des confusions sur l'affiche, les distributeurs se sont dit, en faisant une affiche légèrement graphique, c'est des vraies remarques que j'ai entendues, les gens vont penser que c'est un film avec Shia LaBeouf et Viggo Mortensen. Et vu que c'est un peu plus vendeur que Inconnu numéro lambda et Crispin Glover, peut-être que ça peut se vendre.
Mais tu déconnes, mais le héros avec sa barbe et l'angle sur lequel il est pris, je croyais que c'était un autre acteur.
Je pensais que c'était Charlie Hunnam, tu sais, le gars de Sons of Anarchy, là.
C'est... ouais, c'est ça.
Qui a fait ses armes avec James Gray depuis, enfin, un mec bien.
Mais bon, bref, on croit que c'est un autre acteur, quoi. Et c'est... bon, bref. C'est... ce film est une escroquerie, faut pas y aller, voilà. Je... mais vraiment, quoi. Mais, non, bah... mais même en gratuit, n'y allez pas, quoi. N'y allez pas, fuyez. Ah, putain, il faut que je me nettoie la langue et les yeux, quoi.
Merci à tous pour votre présence. En l'état actuel de l'enquête, rien ne nous permet de penser qu'il s'agit d'un enlèvement. Avant tout, nous devons nous assurer que l'enfant ne s'est pas perdu. Je vous demande la plus vive attention lors de votre avancée. Bon courage à tous.
Vous croyez à l'enlèvement, vous ? Peu importe ce que je crois. L'important, c'est que tout le monde y pense.
Personne sait où il est, je l'ai cherché partout.
T'inquiète pas, on va le retrouver.
C'est pas bien facile tout ça. Là, ça colle pas. Qu'est-ce que vous avez fait entre 9h15 et 10h?
Qu'est-ce qu'il y a, maman?
Les policiers sont venus à la boutique. S'il a rien à se reprocher, pourquoi il répond pas?
On ferait bien de le retrouver vite avant que tout ça nous pète à la gueule.
Vous et moi, nous avons un petit secret.
Allez, il fallait respirer un peu, il fallait prendre l'air après la catastrophe nauséabonde de Lucky Day. Et là, cette fois-ci, on va prendre le temps, on va se prendre 3 jours, une vie à peu près, de ressenti, sur un film, ben 3 jours, une vie d'ailleurs, de Nicolas Boukrieff, d'après un roman de Pierre Lemaitre. Alors Pierre Lemaitre qui est l'auteur de Au revoir là-haut. Au revoir là-haut, qui était un film magnifique de Dupontel. Hera vient de nous rejoindre, salut Hera.
Salut Thomas.
Avant de décrire bon, le film qu'on a vu, là le film est très mis en avant parce que c'est un scénario de Pierre Lemaitre. D'ailleurs c'est un film de commande de Pierre Lemaitre hein, qu'il a demandé à ce qu'on fasse le film de son bouquin. Au revoir là-haut, on dit ouais c'est le scénariste de Au revoir là-haut. Est-ce que pour vous c'est un argument marketing qui se tient? Sachant que moi Au revoir là-haut, j'ai adoré la réalisation mais pas tant que ça le scénario.
Moi le seul rapport que j'ai à Pierre Lemaitre c'est le libraire de la galerie où je bosse qui m'a dit Au revoir là-haut c'est très bien. Ce qui écrit ce mec, c'est de la merde en général.
Waouh.
Voilà.
Waouh. Hera, un petit mot.
Moi, j'ai adoré Au revoir là-haut aussi. J'ai adoré le scénario. J'ai adoré le suivi de l'histoire. L'histoire tient bien la route. Elle est entraînante. Et ça va pas forcément là où tu t'attends que ça aille. Donc, c'est limite un conte, un peu triste, mais limite un conte. C'est pas du tout ce qu'on vient de voir comme type de scénario. Là, tout de suite, on va plus être sur un thriller, donc vraiment un policier. On n'est pas du tout dans la même ambiance.
3 jours, une vie, cette fois-ci, alors avec au casting Sandrine Bonner, Pablo Paoli, Charles Berling, Philippe Torreton. Gros casting. On a Charles Berling en syndicaliste d'usine en train de fermer. C'est assez surprenant.
C'est vrai que moi, je m'étais toujours dit pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis Vincent Lindon. Sauf qu'après, vu que Charles Berling, tout ce qu'on lui a demandé dans tout le film, c'est de gueuler, ça colle à ce qu'il fait d'habitude, quoi. C'est juste que c'est tout le temps hors du ton.
Voilà. Alors, le petit point sur l'histoire, on est dans un village des Ardennes, en Belgique. Dans l'abondance, on ne voit absolument rien du scénario. On sait juste qu'il y a un gamin qui disparaît, il y a une battue pour le retrouver. Et après, il y a plein de Deus Ex Machina.
Le film parle pas tant que ça de cette battue et de cette disparition en fait.
C'est juste une petite étape du film et pas tant.
Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on a un peu utilisé pour attirer. Bon, je veux pas dire que j'ai été déçu par ça parce qu'en fait ça part tellement dans tous les sens que peu importe. Mais jusqu'où on peut aller, je pense qu'on peut la raconter cette histoire en fait quand même.
Bah, on est bien obligé je pense d'en parler si on veut vraiment pouvoir parler du film parce que sinon on va juste rester hyper évasif.
Donc pour raconter l'histoire, donc c'est là qu'on commence la partie spoiler. Donc ceux qui veulent aller le voir, passer à autre chose. Le petit enfant que l'on suit au départ est une catastrophe ambulante. Ce petit Antoine subit un échec amoureux. Il voit son amoureuse embrasser un autre homme, donc il est triste. Ce qui entraîne une colère, ce qui entraîne une suite d'accidents où il va balancer une balle sur la route. Il avait un chien à côté de lui, le chien va bouffer la balle, le chien se fait écraser. Sale histoire déjà. Le lendemain, détruit, il va dans son espace un peu secret dans la forêt. Il y a donc le frère de cette fille dont il est amoureux qui l'accompagne en forêt. Un peu énervé, il lui balance un bâton à la tronche. L'enfant tombe, s'éclate la tête sur une pierre, décède. Réaction face à ça, le petit Antoine décide de cacher le corps. Donc il se retrouve à 12 ans, responsable d'un meurtre. Au cours de cette histoire, ça va être comment est-ce que Antoine réussit à d'abord oublier plus ou moins ce qu'il a fait, à mettre ça de côté, et comment est-ce que la vérité va petit à petit ressurgir.
T'oublies qu'il y a un deus ex machina de la mort, c'est qu'au milieu de la battue, il y a la tempête du siècle.
En fait, il a utilisé un fait historique, donc la tempête de 99 qui a été une tempête monstrueuse, pour intégrer son histoire. Donc oui, voilà, en effet, on a la tempête qui va créer une crue énorme et qui va faire que les recherches vont s'arrêter. Alors que, 15 ans plus tard, enfin après le film se passe 15 ans plus tard, ce qui est super chouette, c'est que cette crue, cette tempête n'ont pas fait bouger le corps d'un millimètre, quoi. C'est-à-dire, ils auraient juste pu continuer leur battue pépère, ils l'auraient trouvé. C'est quand même assez triste. 15 ans plus tard, il revient à la ville, il est devenu médecin parce qu'il avait été un peu influencé par le médecin du village qui, à 12 ans, lui donnait des livres d'anatomie, ça le passionnait. Il revient à son village parce qu'il revient de temps en temps voir sa mère, il n'a pas trop envie d'y rester. Des circonstances font que la forêt est en train d'être déboisée. Et il se rend compte qu'on risque de retrouver le corps. Donc en fait, il va y avoir une machination qui va se faire contre lui, où plusieurs éléments vont faire qu'il va devoir essayer de masquer ses traces au fur et à mesure, et s'empêtrer un petit peu du coup dans ce village qui va devenir une sorte de prison, quoi.
Oui, ce qui est un peu con, parce que tout ce qu'il peut réussir à faire 15 ans après, c'est rajouter des preuves plutôt qu'en enlever.
Oui.
Oui. Alors, il y a un moment où il retrouve au final le corps de cet enfant, et où le seul élément qu'il y a sur ce corps, c'est... D'ailleurs, corps slash ossement, parce qu'en fait, au bout de 15 ans, est-ce qu'il reste vraiment un corps? Je ne suis pas sûr.
L'eau, ça conserve.
Pardon, l'eau, ça conserve. Ok.
Attends, le corps n'a pas bougé, on t'a dit. Il y a la tempête du ciel, il n'a pas bougé d'un centimètre. Alors, voilà.
C'était Noël. Il y avait de l'eau, ça a glacé.
Bon, peu importe. En tout cas, c'était nécessaire pour suivre son histoire. Donc voilà, il a utilisé ça. Et le seul élément qu'il y a, c'est donc un cheveu qui appartient à quelqu'un. Et ça le fait paniquer, le mec. Alors qu'en fait, on retrouverait que c'est un cheveu, que c'est son ADN. Il pourrait simplement dire, bah oui, parce qu'en c'est fait, on copain. Était proches et c'était mon copain, donc oui, il y a mon cheveu sur lui. Mais non, ça le fait paniquer, le mec. Donc il commence à aller bouger le corps et il s'empêtre dans son propre truc. Et c'est là un peu que, pour moi, le film a commencé à vraiment ne plus se tenir. Parce que, oui, bah oui, j'ai été patiente. Et oui, Thomas fait une tronche. Mais j'ai été patiente. Je me suis dit, bon, admettons, pourquoi pas. Ça me semble comme un téléfilm où le chef-op serait en vacances, mais ok. Mais pourquoi pas. Et à ce moment-là, tu te dis, bah mec, là par contre, tes actes sont un peu illogiques, ça a aucun sens, t'es tellement empêté dans ta propre culpabilité qu'en fait, tu trouves même plus les ressorts intérieurs nécessaires pour t'en sortir. Ça devient méga foireux. Et oui, il est meilleur menteur quand il est gamin, il évite mieux les situations, et il aurait pu choisir de vraiment enterrer ce souvenir au point où il n'y a rien qui peut venir le déterrer, sans mauvais jeu de mots, mais c'est pas le cas.
De toute façon, le gars, il a une immunité à vie. Quand on découvre le cheveu, c'est un gamin de 12 ans. Ouais. Tu l'accuseras jamais de toute manière. Tu peux dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je lui ai fait un câlin avant de partir, je vous l'ai pas dit. Point barre, c'est un gamin de 12 ans, personne l'accusera. Voilà, après, on peut parler d'un film sur le poids de la culpabilité. Ça peut être hyper intéressant. Le fait que chaque fois qu'il revienne, ça lui pèse. Ça, c'est intéressant.
Moi, j'ai l'impression que tout est éludé. J'ai l'impression qu'il y a plein de thèmes qui pourraient être vachement bien, surtout dans la première partie. Dans la deuxième, pourquoi pas, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de thèmes qui pourraient être abordés, dont la culpabilité, ou alors les accusations à droite à gauche, parce qu'un coup on embarque le père, un coup on embarque le boucher qui avait garé sa camionnette parce qu'il avait vu le gamin s'enfuir. Enfin, on aurait pu partir sur plein de trucs, et en fait j'ai l'impression que tout est survolé.
Sa paranoïa peut se comprendre, le fait qu'il ait besoin éventuellement de virer tout ce qui peut rester de reste, de le cramer, de faire un truc, ça, pourquoi pas. En fait, moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est les ressorts ultra grossiers qui vont le réenfermer là. Mmh. Et du coup, on va le spoiler, puisqu'on va spoiler la partie du film. Il retrouve cette nana...
Son amour d'enfance.
Dont il était amoureux, qui lui sort « J'étais peut-être amoureux de toi aussi ». Du coup, ils couchent ensemble, parce que évidemment, une tension sexuelle qu'on a absolument pas mis dans le film débarque de nulle part, parce que c'était des enfants qu'on l'a... On aurait pu peut-être le montrer qu'ils étaient encore plus proches, ça aurait au moins servi ça, mais non. Et du coup, pof, elle est enceinte, et elle lui dit en gros « Ben, haha, je vais faire un test de paternité, donc on va voir ton ADN ». Alors lui, « Ah non, si on a mon ADN, on va découvrir que c'est moi, donc je reste, je t'épouse ». J'étais là, c'est ça le ressort que vous avez trouvé pour l'enfermer là. Le polonais, l'épicier du coin qui finit avec une vie de merde vu qu'il est accusé, que tout le monde l'accuse parce qu'il est étranger, que le mec il est patron de l'épicerie, il finit par laver le sol, le pauvre. Mais bon, qui lui annonce que le mec, sa mère recevait des cartes postales venant du village d'où il vient. Ah, il y avait une aventure avec sa mère. On aurait pu nous faire le coup du... En fait, vu qu'on ne connaît pas le père d'Antoine, on connaît pas le nom de son père, on sait qu'il est mort. Il aurait pu nous faire le... En fait, c'est moi ton père. Ça aurait pu être le petit truc, genre il lui pique un truc d'ADN, il le fait accuser. Le mec ventole, l'affaire est réglée, le mec peut partir, vivre sa vie. Ça aurait été machiavélique, ça aurait été un truc. Et ça aurait peut-être correspondu à, à l'esprit de la première partie, quoi. Et même pas, j'y avais plein de clés où je me disais, ah, ça va partir là-dedans. Ah non, c'est chiant. Ah tiens, ça va partir là. Ah non, c'est chiant. Voilà.
Ouais. Ça part nulle part parce que c'est typiquement quelque chose qui fonctionne en bouquin mais qui ne fonctionne pas en film. Et en film, il y a des choses qu'il faut montrer et là, c'est vraiment du littéraire pur mis à l'écran et ça se ressent aussi dans les dialogues. Tout le départ du film, c'est limite les... Je n'ai pas lu le livre, hein, mais c'est limite à vérifier si c'est pas les exacts dialogues du livre qu'on a remis simplement dans le scénario. Et quelque chose que tu écris dans un bouquin ne fonctionne pas forcément à l'écran, surtout quand il s'agit de faire interagir des acteurs entre eux.
C'est le scénar par l'auteur du roman.
Oui, mais qui est romancier, qui n'est pas nécessairement scénariste.
Même, il avait déjà fait ce travail-là sur Au revoir là-haut, et il l'avait vraiment bien fait.
Oui, mais Au revoir là-haut, c'est un conte.
Oui, non, bien sûr. Mais
c'est
non,
un côté conte.
Il l'avait bien re-scénarisé donc, voilà, pour l'écran.
Il l'a re-scénarisé pour l'écran, et Au revoir là-haut, au moins, il y a ce côté histoire où on t'embarque, donc on est OK avec les dialogues, et la mise en scène de Dupontel soutient ça, ce qui n'est pas le cas là. Là, on est dans le gros polar, et c'est là où ça ne marche pas. J'ai l'impression de voir un Mary Kings Clark, quoi, à l'écran. Et c'est ce qu'ils font, ils transposent exactement toute l'histoire, on va faire exactement la même chose dans le film. Ça peut marcher sur un petit format, ça marche moyennement pour quelque chose de plus cinématographique, surtout quand on t'étale l'histoire sur une vingtaine d'années.
Ouais.
Et il y avait beaucoup d'opportunités, de choses à faire pour rendre ça comme un bon film et comme un bon policier. Ça aurait pu, parce que la base est intéressante. Mais les chemins qui ont été choisis d'exploiter donc ont plein de ressorts qui, encore une fois, fonctionnent dans un livre parce qu'on est là, ah, waouh, encore du nouveau, waouh, encore un autre truc. Et ça marche quand tu lis un roman. Là, ça marche pas du tout.
Je conclurai juste en disant que Pierre Lemaitre, en fait, je pense qu'il a surfé un petit peu sur le succès de son... Enfin, sur le fait qu'il ait eu le Goncourt et sur le succès d'Au revoir là-haut pour se dire, maintenant, je vais demander d'adapter d'autres bouquins parce que comme ça, bah... Donc du coup, je pense que ce film-là aura sûrement pas le même retour. Je veux dire, je pense pas qu'on sera les seuls à dire que c'était pas très bien. Peut-être que ça va nous éviter d'avoir ces autres romans qui visiblement sont encore moins bien à l'écran. Merci Nicolas Boukrieff d'avoir fait ça.
Alors on continue de remonter le temps parce qu'on était dans le futur en début d'épisode, époque contemporaine avec Lucky Day. On était en 99 avec 3 jours une vie et là on repart même carrément plusieurs siècles en arrière avec Portrait de la jeune fille en fleu.
Je suis venue pour vous peindre.
C'était donc ça, vos regards.
De la jeune fille en feu.
Portrait de la jeune fille en feu. Un film de Céline Sciamma. Avec Noémie Merlan et Adèle Haenel. Une histoire d'amour entre une jeune fille de bonne famille et une femme venue lui tirer le portrait. Une passion brûlante. N'est-ce pas, Hera ?
Oui, Thomas, on a compris que les dialogues étaient lents. Merci de nous l'illustrer de cette manière. C'est parfait pour un podcast. Oui, donc on sort de Portrait d'une jeune fille en feu. En dehors de cette lenteur, il y a l'amour. L'amour, oui, de deux jeunes filles qui ne peuvent pas s'aimer, qui se découvrent. Et comme tout film de Céline Sciamma, c'est souvent sur ça que ça porte, la découverte de soi et la découverte de l'autre, avec le temps que l'on prend à se comprendre et à comprendre l'autre. Et c'est toujours ce que j'ai trouvé génial chez Siama, c'est cet ultra-réalisme dans les relations. Dans la manière dont tu vas rencontrer les autres personnes et la manière dont tu vas interagir avec eux et la sincérité avec laquelle elle le fait, avec tout ce que ça contient de peur, de recul et de fuite en avant. Et Portrait d'une jeune fille en feu, une belle illustration. C'est un film qui prend son temps énormément à tous les niveaux. Et l'époque le justifie aussi parce qu'on est dans une époque où de toute façon, c'était... il n'y avait pas grand-chose à faire. Il faut dire ce qu'il y a. Il n'y a pas grand-chose à faire. Là, les deux jeunes femmes sont enfermées dans une bâtisse dont on ne voit même pas l'apparence, avec quelques balades en dehors pour prendre l'air près de la mer. Et elles font rien d'autre que de la broderie, jouer aux cartes et peindre.
Alors... non mais c'est pas ça, c'est que en fait je m'amusais à compter, il y a chaque fois 5 secondes entre chaque phrase et
pas chez David Lynch, détends-toi. Enfin non, enfin
non mais je veux dire, si elles avaient un débit de parole normal, le film ferait pas 2 heures mais 1 heure et demie quoi.
Je suis pas d'accord du tout avec ça.
Je trouve pas une grande importance dans cette dans ça en fait, dans le fait que les dialogues prennent leur temps, parce que c'est possible qu'on s'exprime comme ça en prenant simplement son temps, en réfléchissant à ce qu'on va dire. Pourquoi pas ? C'est pas gênant, et puis c'est pour encore plus installer de lenteur, donc tu vas me dire, elle fait ça très bien. Ah, effectivement.
Là, ouais. Là c'est réussi.
Effectivement, oui, on installe cette lenteur-là dans la relation aussi, parce qu'elle se devine, elle se suppose, et ça prend son temps d'installation. Et il le faut, et tout est très lent en fait à cette époque-là. Donc pour bien te plonger dans cette lenteur-là...
Ça veut dire quoi, tout est très lent à cette époque-là?
Bah,
c'est un cliché, c'est pas parce que c'est un film en costume que ça doit être long et chiant quand même.
Non, mais tu étires le temps parce qu'il n'y a rien à faire dans la journée. Il n'y a quasiment rien à faire, donc en fait, tu prends ton temps pour tout. Moi, je le voyais vraiment comme ça, comme un espèce de... à chaque fois que tu fais quelque chose, tu prends le temps de le faire parce que de toute façon, tu n'auras rien d'autre à faire et tu risques de t'ennuyer. Donc, tu étires ce temps que tu as.
Enfin, à la différence que moi, j'ai pas trouvé ça long et chiant, hein, pour le coup. Donc, c'est sûrement une question de ressenti, de toute manière, mais c'est lent, certes, mais c'est pas long pour autant. Enfin, j'ai trouvé que c'était tout à fait justifié. En fait, moi, le côté même dialogue qui sont dits de manière très articulée, très justement, en prenant le temps de les faire, c'était pour moi un miroir de la manière dont elles se découvrent aussi également. On est face à deux femmes qui doivent braver un interdit, un malheureux interdit, hein, qui ne devrait pas l'être, mais qui est une question d'époque. Donc du coup, forcément, elles ont besoin de ce temps pour comprendre que l'autre est aussi d'accord pour faire ça, ce qui n'est pas forcément simple. Quand tu as une passion, elle peut être unilatérale, surtout quand c'est une passion interdite. Et ces deux femmes qui ont besoin de prendre le temps de comprendre ce qu'elles doivent vivre, de comprendre comment elles peuvent le vivre. Et donc du coup, oui, je trouve que ça, pour moi, c'est un miroir. En fait, moi, ce que j'ai surtout énormément apprécié, ça s'appelle Portrait de la jeune fille en feu. Donc on a surtout le regard d'une peintre. Et c'est ça, c'est un film sur le regard. C'est un film qui est constamment, chaque plan est un regard. C'est pour ça que tout est toujours très flou autour des yeux. Donc les yeux sont toujours très nets. On a tout le temps, que ce soit quand on montre une personne qui regarde l'autre, on a un énorme plan sur ses yeux tout le temps. Le jeu de regard est incroyable, le duo d'actrices fonctionne à merveille parce que t'as l'impression qu'on les a appris à se regarder avant de tourner, qu'il y a eu une énorme préparation juste sur la manière dont elles se regardent, et c'est pour ça que le dialogue est limite obsolète en fait. Mais il fait qu'apporter un rythme supplémentaire pour peut-être que justement on puisse passer au-delà de ça, parce que le film pourrait être muet, qu'il aurait une énorme forme évocatrice aussi en fait, parce que c'est vraiment un film de regard sur deux personnes qui vraiment pour moi se regardent pendant 2 heures, et ça m'a pas dérangé une seule seconde.
L'image est très importante ici, c'est magnifique, on se croirait dans un tableau, il y a une gestion de la lumière qui est incroyable, il y a beaucoup d'éclairage à la bougie, alors c'est du faux éclairage à la bougie, on a compris bien sûr, mais ce que je veux dire c'est qu'on est dans des couloirs, c'est éclairé à la bougie et la lumière va suivre le mouvement de la bougie, hein. Donc c'est très réussi, c'est sublime. Et ça nous rappelle aussi que les gros blaireaux qui nous expliquent que l'écran est mal réglé quand on n'y voit rien, il faudrait leur montrer ce film pour leur expliquer. C'est pas, c'est très facile, c'est faisable un éclairage. Ça demande du boulot, mais c'est pas la faute de l'écran, quoi.
On revient sur ce que Hera avait dit sur le film précédent. Tu vois, quand le chef opérateur est pas parti au Club Med, ben voilà, ça donne ça.
Et puis, ouais, il y a de la chaleur partout dans l'image, c'est beau, c'est sublime. Alors, c'est vrai que je comprends, on rappelle, c'est un film qui a eu le prix du scénario à Cannes, et ça posait des questions, surtout les critiques qui disaient qu'il aurait plus mérité la mise en scène que le scénario. C'est Dardenne qui a eu la mise en scène, mais...
J'aurais vraiment dit, ça dépend de qui a eu la mise en scène. Moi, je fais toujours en comparaison en me disant, je suis content qu'elle ait eu un prix, c'est dommage qu'elle ait eu celui-ci, c'est sûr. Par contre, ça fait chier que ce soit au profit des Dardenne.
Ben, la mise en scène des Dardenne est, on va dire, discrète. Alors, non, mais voilà. Alors que là, elle est voyante. Enfin, disons que là, c'est très appuyé. On voit très bien que ça a été. Il y a une attention sur l'image qui se voit à l'écran. Et alors, bon, on se croirait dans un tableau, effectivement. C'est un film très graphique, justement. On dirait une toile.
Oui, on est devant une centaine de tableaux tous aussi beaux les uns que les autres. Moi, au début du film, bon, après je me suis pris vraiment dans le truc, mais avant de réellement me faire prendre par l'histoire et par justement ce dont ça allait parler, même si je savais de ce dont ça allait parler, puisque c'est assez net dès le début, je m'amusais dans ma tête, en fait, à chaque fois qu'un plan arrivait, à me dire si j'avais peint ça, comment je l'appellerais. Donc je m'amusais à nommer chaque plan. Et parce que vraiment, chaque plan est composé. Il n'y a pas un plan qui n'est pas composé.
T'as eu le temps de faire ça?
Ouais. Non mais voilà, mais cet été, c'était des petits noms comme ça, quoi, si tu veux. Mais je me disais, pof, c'est surtout beau là-dessus. Ce qui est beau sur la lumière, en fait, c'est même la façon dont l'ambiance change au fur et à mesure selon la manière dont les personnages s'illuminent par leur relation. Plus elles se découvrent, plus la relation avance, plus on est dans des couleurs chaudes, plus c'est éclairé, plus les pièces prennent le jour, en fait. Et voilà, et d'ailleurs, c'est pour ça que même tu as, enfin, quand la relation commence à... atteindre sa limite, on retourne dans des endroits très clos. On n'est plus en extérieur ou on n'est plus dans des pièces qui prennent la lumière parce que c'est de nuit ou parce que voilà. Ou c'est des lumières très artificielles à ce moment-là.
Après, pour la gestion des prix, c'est vrai qu'au niveau du scénario, je pense que s'il fallait faire un choix, je ne sais pas si je lui aurais filé le scénario non plus. Alors, il aborde des thèmes aussi, des thématiques. Bon, effectivement, l'amour interdit et ça questionne. Enfin, ça questionne pas. Ça montre la place de la femme également. Où on dit explicitement des fois que t'es pas compris, ah ben non, en fait, les femmes, elles sont exclues de l'art parce qu'elles peuvent pas peindre des hommes, donc elles sont exclues des sujets importants.
C'est informel après. C'est informel après. Enfin, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est
dit,
que
c'est dit mot pour mot.
Non, mais c'est dit de manière informelle. Je veux dire, c'est pas. Ça t'apporte certes un élément de compréhension, mais c'est pas. Enfin, ils le disent qu'une fois. Je veux dire, ils te le disent pas à longueur de prise tout le temps. Je veux dire, ça va quoi. En même temps, c'est important de replacer ces choses-là. Oui, je trouve que c'est important de replacer ces choses-là pour ceux qui ne savent pas et que c'est pas, on n'est pas en train de te le marteler, donc moi ça m'a pas dérangé. Enfin, je trouve ça assez subtil en fait, la manière dont c'est amené.
Oui, et puis Céline Sciamma, elle a quand même une prédisposition à faire des films quand même tournés vers les femmes et toujours vers le rapport aux femmes et le fait de réussir à montrer comment fonctionne une femme et qu'est-ce qu'est une femme et le point de vue vraiment de la femme sans chercher à marteler sa position.
Ça arrive quand même juste après l'avortement. Non, mais c'est juste qu'il y a du message. C'est pour expliquer le scénario, pour dire qu'il y a du message. C'est pas pour dire quoi que ce soit. C'est juste pour dire que c'est ce qui peut expliquer le scénario. C'est justement par les thèmes qu'il aborde.
Oui, oui, complètement. Il y a beaucoup de force. Il y a aussi beaucoup de force symbolique dans tout. Il y a évidemment des rapports à la lecture, à la littérature.
D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était plus naturel quand elle lisait le bouquin que quand elle disait les dialogues entre elles.
Ouais, c'était plus rythmé. C'était beaucoup plus vivant et beaucoup plus. Théâtral, on va dire, effectivement.
C'est théâtral tout le temps, du coup.
C'est très théâtral tout le temps. C'est très écrit. Je trouve que c'est un film qui était très exigeant. Et je suis content d'ailleurs qu'il soit pas tombé dans une certaine forme de pathos, en fait. Parce que c'est très, très exigeant. Hein, je veux dire, même déjà, ne serait-ce que pour nous, pour le regard, il faut capter beaucoup de détails. Il y a quand même beaucoup de choses à décortiquer à l'écran. Mais en plus, voilà, le dialogue est très écrit, se répond, rime la plupart du temps. Il y a un côté, dans la diction, enfin, dans ce qui a été demandé à ces actrices. Ça aurait pu tomber dans un truc qu'on aurait trouvé assez ridicule. Et là-dessus, ça s'en sort enfin, relativement bien, je trouve.
Ouais, fait d'autant qu'il y a des grosses punchlines, entre guillemets, donc elles te laissent bien le temps, parce que c'est du très écrit à chaque fois. Ouais. Être seul, c'est être libre. Vous avez 3 heures.
Après, on parle de la place de la femme, et ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, même dès le début du film, ça s'est posé, puisque cette fille, elle vient faire un portrait de la nana, et on te dit qu'elle doit répondre à des conventions, qu'elle doit faire le portrait d'une manière assez précise, puisque l'idée, c'est de convaincre le futur mari par le portrait. Enfin, en mode, c'est la matriarche qui va vendre sa fille, hein, concrètement. Donc, ça te montre aussi que la place des femmes, c'est de réussir à rester jolie et se vendre par une apparence précise pour pouvoir exister dans la société par le mari. Donc, de toute façon, je veux dire, oui, c'est clairement une question de positionnement et ça, on te l'annonce dès le début. Quoi.
Ouais, c'est vraiment, c'était une époque dégueulasse. Ça n'a rien à voir absolument aujourd'hui avec Instagram et les filtres. C'est vraiment un truc.
Ça a changé.
Voilà. Absolument.
Mais c'est aussi ça.
Ou Aya Nakamura qui chante qu'il faut trouver un beau mari, quoi. C'est bien.
Mais c'est aussi
là, ça, l'époque a complètement changé, c'est bien, on a changé de mentalité, quoi. C'est bien.
Le problème reste toujours le même, est-ce que c'est la faute de la personne qui le chante, de la personne qui la vend ou de la personne qui l'écoute? Il y a de la complicité dans le temps.
Si elle avait voulu faire ce film maintenant, elle aurait forcément parlé d'Instagram, elle aurait forcément parlé des réseaux sociaux, elle aurait forcément donné un univers extrêmement speed. Là, de reprendre une ancienne époque pour souligner le fait que c'est toujours pareil maintenant, mais en reprenant des thèmes anciens, je trouve ça assez brillant.
Alors, dire que c'est pareil maintenant, là, c'est parce qu'on vient de faire le rapprochement, mais...
Ouais, mais j'ai quand même, j'ai quand même eu cette pensée-là pendant le film, de justement le fait que maintenant tout se consume extrêmement vite et se consomme extrêmement vite, et que là de réinstaller cette lenteur-là, mais pour justement justifier l'obtention finale, enfin l'obtention d'un mari au final, je trouvais ça assez intéressant comme miroir par rapport à maintenant.
Oui, alors c'est quasiment le portrait pour le mari, c'est quand même une problématique qu'on a dans tous les films en costume, et c'est pas particulier, enfin je veux dire sur ce film là c'est
oui, ça, non bien sûr, c'est juste après pour monter. De toute façon, à partir du moment où on enferme ces femmes dans cette maison, et qu'on va ne s'intéresser plus qu'à elles, on sait que ça va être enfin cette histoire là vue de leur point de vue à elles, de la manière dont elles le vivent.
Pour moi, d'habitude, les films d'amour en costume, ça me fait un peu chier. Ben c'est toujours le cas.
C'est toujours le cas. J'allais dire, est-ce que tu vas dire que là c'était fantastique? On a vu ta réaction, Thomas, quand t'es sorti de là. On sait que t'as pas apprécié.
Mais après, c'est très beau, c'est magnifique. Voilà, non, hein. c'est sublime. Pas... Mais bon, voilà. Ça m'a pas fait changer d'avis sur le genre.
C'est normal. Comme je dis, c'est un film d'exigence. C'est un film qui demande aussi une attention qu'on n'est pas forcé d'avoir, que moi j'ai pas dans certains trucs, que j'ai généralement pas dans les films en costume. Ouais. Là, ça m'a beaucoup charmé. En général, bah, je me demande à Hera, genre de film, je suis très vite rebuté. Donc là, tu vois, pour le coup, ça a fonctionné. Bon, bah.
Non, mais sur mes films en costume de l'année, je le mets sous la favorite, mais quand même bien au-dessus de Mary Stewart. Voilà.
Tu m'étonnes.
Donc on peut dire, Thierry Hera, que vous êtes enflammé pour ce film. Nous sommes bien le 18 septembre 2019 à Paris. Nom de Zeus.
Alors, je sais pas si j'ai vraiment très envie de rester, parce que, étant donné que le seul des quatre films qui se passe à une époque contemporaine, c'était Lucky Day, j'ai pas spécialement envie de me retrouver à cette époque-là, moi.
Hein. Oh, et un peu 3 jours, une vie, puisque 15 ans après, c'est à peu près nos jours.
2014, ouais, c'est vrai. Mais bon, ça commence en 99.
T'as pas non plus envie de vivre dans les Ardennes, où c'est tout gris dans un petit village, et où t'as tous les trucs horribles qui se sont passés et qui sont encore en train de se passer.
Et t'es obligé de te marier parce que t'as un meurtre sur les bras et un gamin.
Ouais, t'as vraiment pas envie de vivre ça non plus. Hein.
Tu crois que tous les gens qui vivent dans les Ardennes sont là parce qu'ils ont commis un meurtre ou parce qu'ils ont un enfant qu'ils sont obligés de reconnaître?
Le dernier film que dans les Ardennes qu'on avait vu avec Thierry, c'était Les Ardennes, et ouais, il y avait aussi une histoire de meurtre, mais il y avait des autruches, c'était plus classe.
Voilà, alors quel est le film que vous retenez? Bon, Hera, tu en as vu deux, je sais pas, j'ai une petite intuition, mais je...
Piste. Évidemment, Portrait de la jeune fille en feu, oui, que j'attendais de toute façon énormément, et j'ai vraiment pas été déçu par Siama, quoi, encore une fois.
Thierry, qu'est-ce que tu retiens de la semaine?
Pareil, je pense que celui que j'ai préféré des quatre, c'était celui-là, avec derrière Ad Astra, qui était quand même... très bien, et les deux autres sont pas bons, donc de toute façon, qu'est-ce que tu vas retenir d'autre? Je veux dire, voilà quoi. On avait quand même, en fait, c'était marrant le fossé vraiment qu'il y avait dans la qualité des films entre deux qui sont, un qui est excessivement médiocre, un qui est pas bon, et deux qui sont vraiment excellents, enfin, en tout cas pour moi.
Oui,
du coup,
il y a un fossé clairement.
Il n'y avait pas le petit truc sympa entre deux que tu peux savoir. Oh, à la limite, même si je l'ai pas beaucoup apprécié, je pense que dans ce cadre-là, j'aurais dit, allez, Woody Allen, c'était le milieu.
Ouais, on peut jauger comme ça. Alors moi, j'aurais mis Ad Astra devant parce que j'ai préféré, je suis plus science-fiction, mais...
Si on commence à rajouter Woody Allen dans la sélection de cette semaine, est-ce que ça change pas un peu l'ordre? Non, je reste sur Portrait, mais ouais, ensuite, carrément Woody Allen, ouais.
Merci, Hera.
Merci, Thomas.
Merci, Thierry.
Merci, Thomas.
C'était Certains les Machos, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. En attendant, la semaine prochaine, vous pouvez nous retrouver sur votre application de podcast préférée. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et aussi, mettez des likes, des commentaires, des 5 étoiles, afin de le rendre plus visible et de pouvoir le faire découvrir à d'autres personnes qui ne le connaîtraient pas encore. Pour le faire découvrir, vous pouvez aussi le partager sur les réseaux sociaux et nous retrouver, nous envoyer des messages aussi sur les réseaux sociaux. Ça nous ferait très plaisir de discuter de l'épisode avec vous. Twitter, Facebook, Instagram, Clac Podcast, C-L-A-A-C Podcast. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous.
Bisous.
Clac Podcast.
Clac Podcast.
Il est rapide celui-là. On pourrait le faire la Siam, hein. Clac.
Podcast.
Et encore, c'est bon, on est sympa, on n'a pas attendu 5 secondes.